Radio Okapi. Le journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi.
C'est ce mercredi 15 mai qu'est prévue l'inhumation des victimes des bombardements par le M23 d'un site des déplacés de Mugunga au nord Kivu le 3 mai dernier. Lieu choisi, le cimetière dit des anciens combattants à Nyiragongo pour des enterrements dignes de ces personnes. Le week-end, l'autorité militaire provinciale annonçait déjà que les caveaux étaient presque prêts pour ce lieu du sépulcre de ces 35 corps. La candidature de Chimène Polipoli, élue de Malembankoulou dans le Haut-Lomami, remplace celle de Serge Bahati, député de Kabare au Sud Kivu, pour le poste de questeur du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ainsi en a décidé l'autorité morale de l'AFDCA, regroupement politique auquel appartiennent ces deux députés. C'est pour respecter le principe de représentativité des provinces dans la composition du bureau définitif, justifie Modeste Bahati Lukwebo. Paulin Jingulula est notre invité. Il est l'un des organisateurs de la foire internationale qui se tient au chapiteau de la Botte à Bukavu jusque demain 16 mai en principe. Bonjour à tous. Le site dit des anciens combattants à Nyiragongo devient désormais aussi le cimetière de mémoire pour les 35 victimes des bombardements d'un site des déplacés le 3 mai dernier à Mugunga. Les travaux de préparation des caveaux sont presque terminés pour ces enterrements dignes prévus ce mercredi donc. C'est selon un programme annoncé le week-end par l'autorité militaire provinciale. Bernard Nyangi.
Ce site d'environ 3 hectares, selon les sources de la province, est situé dans le village Rwanguba, un groupement qui bâtit le territoire de Nyiragongo, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Goma. Le constat sur place révèle que les travaux de maçonnerie pour la préparation des caveaux sont en cours de finalisation. Ce site, qui est un espace public et de l'État, abritait jusqu'à ce jour le cimetière des anciens combattants blancs et noirs tombés au champ de bataille lors de la Deuxième Guerre mondiale des années 1939-1945, nous précise les notables de Nyiragongo. Ceci donnait à ce site l'appellation locale de cimetière des Blancs. Désormais, il devient le mémorial pour les victimes des bombardements des sites de déplacés à Mugunga, attribués aux rebelles du 1-23, le 3 mai dernier. Prévu dimanche dernier, ces funérailles sont confirmées pour ce mercredi 15 mai en raison des travaux de préparation du site d'inhumation et celui d'exposition des corps au stade de l'unité dans la ville. Il était également nécessaire, selon certaines sources officielles, de résoudre un conflit de limites foncières entre ce site public et les riverains du village Rwanguba de Nyiragongo. Goma, Bernard Danyangi, Radio Okapi.
Et de son côté, le caucus des députés élus de Masisi au Nord Kivu dénonce ces bombardements aveugles dans le camp des déplacés de Mugunga, ainsi que les recrutements forcés des jeunes dans le territoire de Masisi. Il rappelle que ces actes commis par les forces rwandaises sous couvert du M23 sont constitutifs des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité punis par le droit national et international. Dans une déclaration lundi au Palais du Peuple, les élus de Masisi estiment que la guerre du M23 ne vise aucunement la libération du peuple congolais, mais plutôt son extermination afin de le remplacer par d'autres peuples. Le porte-parole des élus de Masisi, Jules Mugiraneza, est au micro de Michel Kifindangoy.
Les images qui circulent dans les réseaux sociaux sur le recrutement des jeunes au sein de la population de Masisi procèdent des recrutements forcés pour servir de chair à canon. Le recrutement forcé de jeunes, y compris des mineurs, est constitutif d'un crime de guerre et un crime contre l'humanité réprimé par le droit national et international. Les propos du président rwandais de vouloir protéger une catégorie de la population congolaise cache mal une politique de semer la confusion, susciter un conflit interethnique et créer un chaos dans la région en vue de réaliser un plan d'extermination d'une catégorie de la population congolaise. Sa récente déclaration prétextant que le Rwanda avait des terres en RDC procède du même plan de déposséder la population de Masisi de ses terres et son extermination en vue d'y implanter des populations venues du Rwanda avec la complicité d'une certaine communauté internationale.
En ce qui concerne la situation économique dans la partie est du pays occupée par le M23, le ministère congolais des mines déplore, lui, l'instauration d'une taxation parallèle sur des minerais congolais par le M23, soutenu par le Rwanda. Dans le site minier de Rubaya, par exemple, les négociants et creuseurs doivent dorénavant payer une taxe unique de 3 000 $ américains par tonne pour le coltan et de 2 000 $ américains par tonne pour la cassitérite. Le paiement se fait à Kigali, capitale rwandaise, après vente. Toutes ces affaires sont contenues dans un communiqué signé par la ministre des Mines et dont une copie est parvenue à Radio Okapi hier mardi. Explication de Cynthia Bashizi Nabizana.
Dans ce communiqué, on y apprend que le M23, après occupation de Rubaya, a tenu une réunion avec tous les négociants et creuseurs qui dépendent de ce site minier stratégique au regard de sa grande production de coltan, voire des minerais dits de 3T de manière générale. C'est ainsi que les négociants et creuseurs de Rubaya ont reçu l'autorisation du M23 à poursuivre l'exploitation minière artisanale et devront dorénavant payer une taxe unique de 3 000 $américains par tonne pour le coltan et 2 000 $américains par tonne pour la cassitérite. Ce qui est exorbitant à en croire un expert du secteur minier. D'après le ministère des Mines, la rébellion achète ainsi les minerais produits, les entrepose dans son grand dépôt de Mushaki avant de les acheminer au Rwanda. Ce dernier exporte les minerais de sang en violation de toutes les dispositions internationales et régionales en la matière, affirme le ministère des Mines de la RDC qui dit attendre de ses partenaires les Nations Unies et la communauté internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, notamment qu'un embargo soit décrété à l'encontre du Rwanda.
Pendant ce temps, à Kinshasa, plusieurs organisations et acteurs de la société civile élèvent eux aussi la voix. Ils dénoncent le fait que, je cite, « des milliers et des milliers de tonnes de minerais, notamment du coltan, provenant de la fraude et de la contrebande des éléments du M23, notamment à Rubaya, dans le territoire de Masisi, sont actuellement amenés au Rwanda. Ce pays les exporte sans respect des normes et mécanismes qui réglementent la certification des minerais. Ils l'ont dit hier mardi à l'issue d'un atelier de réflexion sur le commerce et l'exploitation illicite des minerais à l'est de la RDC. Le coordonnateur du panel des experts de la société civile, Dieudonné Mushagalusa, recommande au gouvernement congolais de poursuivre la pression sur les consommateurs finaux afin qu'ils ne puissent plus continuer à acheter ces minerais qualifiés des minerais de sang. Ces propos sont recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
En ce qui concerne le commerce et l'exploitation illicite des minerais, nous avons deux poids, deux mesures où on exige à la RDC de faire taguer les minerais, de les faire identifier au puits, tandis que de l'autre côté, au Rwanda, c'est à l'exportation. Mais également, la question la plus étonnante, c'est cette question qui concerne tous les minerais et surtout les coltans qu'on a récupérés à Rubaya. Et aujourd'hui, Rubaya échappe au contrôle du gouvernement avec autant de milliers et milliers de tonnes. Tout observateur ne peut pas s'empêcher de dire que ces minerais qui viennent de la fraude, de la contrebande vont au Rwanda et malheureusement exportés par les Rwandais contre les principes et les instruments juridiques internationaux et régionaux. Nous avons recommandé au gouvernement de ne ménager aucun effort pour pouvoir dénoncer, mais pour pouvoir recouvrer les droits. Les consommateurs finaux doivent éviter de faire l'hypocrisie. D'un côté, ils parlent des minerais de sang, mais en même temps, ils prennent des minerais au Rwanda et aux partenaires qu'ils puissent faire respecter les instruments juridiques et le cas échéant sanctionner les récidivistes. In fine, le gouvernement doit prendre disposition pour rendre les villes de l'Est attractives pour que tout se négocie là-bas afin de limiter ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui.
Économie encore. La coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu demande au gouverneur de province de retirer ou d'annuler l'arrêté accordant des exonérations fiscales au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Dans une correspondance adressée au gouverneur Peter Chirimwami le lundi 13 mai, la société civile estime qu'il est impensable que de telles faveurs soient accordées aux seules autorités du pays qui sont fortes politiquement et économiquement. Pour le président provincial de cette structure, cela favorise un climat d'incivisme fiscal et d'inégalité sociale. John Banyene est au micro de Denis Lukeso.
La population du Nord Kivu est meurtrie de la guerre. Nous sommes des sinistrés actuellement. Les conditions économiques ne sont pas favorables. Mais ça nous a étonnés de voir comment le gouverneur peut exonérer l'honorable Bahati Lukwebo, tous ses immobiliers se trouvant à Goma. au moment où les citoyens ordinaires sont matraqués par les services de fisc pour payer les impôts. Certains sont en train de fermer les portes à cause de cette pression fiscale et cette exonération. La population n'a pas de contrepartie, on n'en profite à rien. Nous disons que c'est vraiment une inégalité sociale, c'est inconcevable. Et ça risque de pousser les gens même à l'incivisme fiscal. Ils se disent qu'ils sont devenus des vaches à traire, des politiciens. Raison pour laquelle nous sommes en train d'appeler le gouverneur de retirer ou d'annuler cet arrêté avant que les choses ne s'empirent.
Pour rappel, dans un arrêté signé le 7 mai dernier, en effet, le gouverneur militaire accorde à Modeste Bahati Lukwebo des exonérations fiscales du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs de son patrimoine immobilier de la ville de Goma. C'est pour une durée de 2 années renouvelables. Ce patrimoine est composé de 13 concessions foncières. Élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'AFDCA, décide de remplacer la candidature de Serge Bahati au poste de questeur par celle de Chimène Polipoli. Tous deux sont membres de ce regroupement politique. Cette décision est contenue dans un communiqué que Michel Kifindangoy a parcouru pour nous et dont le résumé est rendu ici par Greta Lulendo.
Dans une correspondance adressée au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale et parvenue ce mardi à Radio Okapi, Modeste Bahati Lukwebo souligne que le poste de questeur a été attribué à son groupement dans le cadre de la répartition de postes revenant à l'Union sacrée. Il décide de remplacer la candidature de l'élu de Kabare dans le sud Kivu par celle de l'élu de Malembankulu dans la province du Olomami. Modeste Bahati Lukwebo justifie cette substitution par souci de faire conformer le choix du candidat à ce poste aux prescrits des articles 25, 26 et 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ces articles évoquent notamment la nécessité de veiller à l'équilibre national et à la représentativité des provinces dans la composition du bureau définitif. Vital Kamerhe étant du Sud Kivu et candidat unique au poste de président, il y a donc nécessité que le poste de questeur revienne à quelqu'un de AFDCA, mais originaire d'une province autre que le Sud Kivu.
Quant au contentieux des résultats des élections sénatoriales, la Cour constitutionnelle prend en délibéré toutes les affaires examinées. Elle promet de rendre son arrêt demain jeudi. C'est ce qui ressort des audiences publiques organisées hier mardi par la Cour constitutionnelle sur l'examen d'une vingtaine de requêtes en contestation des résultats provisoires de la CENI au scrutin des sénateurs. Jeff Ngoy.
Certains requérants sont absents à ces audiences, d'autres désistent simplement. Alors, sur une vingtaine d'affaires instruites, aucune liste n'atteint le quotient électoral de 5, selon le procureur général, qui demande l'application du principe du plus fort reste et le critère d'âge. Samuel Konde est le seul candidat déclaré avoir atteint le seuil des 13 voix. Une seule requête reçoit l'avis favorable du ministère public. C'est la requête de Rose Mutombo à l'élection sénatoriale de Kinshasa. La ministre de la Justice conteste l'élection de Madame Bongoudje pour sa nationalité présumée belge. Elle demande à la Cour l'annulation de cette élection à son profit. Le parquet requiert que la Cour déclare cette requête recevable et fondée. Mais la contestée accuse à son tour la ministre Mutombo de conflit d'intérêts. Au Kasaï central, le dossier enregistré sous le numéro RC030 reçoit un avis défavorable du ministère public. Ce dernier émet également un avis défavorable à tout le reste des dossiers, notamment le RC031 du Sud Kivu, 038 de la province du Tanganyika, 029 du Maniema, 025 du Kasaï Oriental, 027 du Nord Kivu, 020 de la Chopo. Le juge constitutionnel donnera sa décision demain.
En plus bref, au Kasaï central, le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante est révoqué de ses fonctions. Ceci ressort d'une décision signée le lundi par le président de la CENI. Dans ce document, il est reproché à Onu Tumba d'avoir, de manière régulière, interféré dans le circuit normal de traitement des dossiers des candidatures en donnant les injonctions à différents niveaux, sans se référer à la présidence du bureau de réception et des traitements des candidatures. Ces faits constituent une faute lourde et porte atteinte à l'intégrité du processus électoral et à la crédibilité de l'administration électorale, soutient Denis Kadima dans cette décision.
Actualité internationale.
Des dizaines de milliers de civils palestiniens continuent de fuir ce mercredi la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, pilonnée par Israël et menacée d'une offensive terrestre d'envergure. Ce mercredi marque l'anniversaire de la Nakba, la création d'Israël en 1948. Durant la Nakba, environ 760 000 Arabes de Palestine ont fui ou ont été chassés de chez eux pour se réfugier dans les pays voisins ou dans ce qui allait devenir la Cisjordanie et la bande de Gaza, selon l'ONU.
L'invité.
Paulin Jingulula est notre invité. Il fait partie des organisateurs de la foire internationale qui se déroule à Bukavu du 6 au 16 mai au chapiteau de la Botte. Il y milite en faveur de la prolongation de son délai pour donner la chance égale aux partenaires d'écouler leurs produits. Paulin Jingulula s'entretient avec Jean Kassami.
Bonjour messieurs, nous voici à la foire internationale de Bukavu. Quel rôle jouez-vous dans l'organisation de cette foire?
La foire est organisée par des partenaires, c'est-à-dire des gens qui ont quelque chose à exhiber. Alors nous, en tant que SIAT, nous accompagnons les partenaires qui sont dans la production, commercialisation, transformation, collecte des produits agricoles. Alors nous sommes partie prenante de cette foire. Nous avons amené ces gens-là, ils sont en train d'exhiber leurs produits, une façon de les connecter au marché, de faire connaître leurs produits aussi.
D'où viennent-ils? Ils sont nombreux?
Ils sont trop nombreux. En principe, la foire elle est internationale parce qu'il y a des gens qui viennent de Tanzanie, il y en a qui viennent du Burundi, il y en a aussi qui viennent de Goma, d'autres provinces. Comme tu peux circuler, tu vois, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont en train d'exposer.
Ceux-là que vous accompagnez, quels sont les différents produits qu'ils sont en train d'exposer ici à la foire?
Oui, ce sont des innovations. D'abord, il y a les haricots, puisque SIAT, nous travaillons dans les haricots. Il y a le maïs, il y a le manioc. Il y a maintenant toute la gamme de la production des sous-produits qui sont transformés à partir de ces sous-produits-là. Ainsi que ici, vous allez trouver la farine des haricots. Vous allez trouver la farine composite, c'est-à-dire avec d'autres produits. Donc il y a un lot vraiment de produits bruts, transformés, secs, qui sont en train d'exposer.
Et comment vous appréciez l'intégration de ceux-là que vous accompagnez?
On ne savait pas que la population de Bukavu avait envie, aussi besoin de voir des choses au niveau où nous en sommes. Puisque ici, nous, l'avantage que nous avons eu, c'est de mettre ensemble tous les acteurs de la chaîne de valeur. Dans nos stands, vous allez trouver, il y a ceux qui donnent les appuis, comme les intrants agricoles, Agrifos, ceux qui font la multiplication, les agro-multiplicateurs, ils sont là-bas, avec leurs produits, la semence de base. Il y a les gens de l'université qui sont là-bas, il y a l'INERA qui donne la semence de base, qui est là-bas, qui expose. Il y a maintenant ceux qui font les paquetages, les emballages, ceux qui font les transformations. Vous allez voir les biscuits à base des produits agricoles, haricots, le soja, tout ça, ils sont là-bas. Alors il y a la farine, plusieurs. Il y en a qui sont venus de Goma, il y en a qui sont venus de Kalemi, les gens qui nous accompagnent sur terrain.
C'est que vous appréciez la manière dont ça se déroule?
Nous apprécions énormément. D'ailleurs, nous nous sommes dit qu'il fallait que des instances comme ça soient organisées de temps en temps. Puisque c'est de cette façon-là que les gens peuvent connaître les produits qu'il y a et peuvent aussi avoir des contacts pour savoir tel produit, où est-ce que je peux aller le chercher. Mais aussi ceux qui vendent, ils ont eu la grâce d'avoir maintenant des adresses, des personnes qui peuvent les racheter. Ce lien-là avec les marchés nous manquait et nous sommes vraiment contents.
Vous pensez que le délai imparti à cette activité suffit amplement?
Le délai est bon, du 6 au 16 c'est largement bon, 10 jours, mais les gens n'ont pas eu l'information avant.
En faisant le tour des stands, j'ai constaté que nombreux émettent les mêmes vœux. Est-ce que vous pensez que l'organisation pourrait encore arracher un délai supplémentaire?
Je pense que si on pouvait ajouter encore 3-4 jours, ça ferait mieux. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Puisque tu vois nos amis qui viennent de Tanzanie, leurs marchandises, c'est une partie qui est arrivée, l'autre partie n'est pas encore arrivée. Et ces gens-là, ils ont dépensé pour venir ici. Il faut leur donner un peu de temps pour qu'ils gagnent l'argent qu'ils ont investi.
Le contact se déroule bien entre les acteurs qui viennent de différents horizons.
Très bien, d'ailleurs ils sont très excités à être au Congo, surtout les Burundais, les Tanzaniens. Vous savez, eux-mêmes ils témoignent, ils disent qu'ils savaient qu'au Congo c'est la guerre, il n'y a pas de vie. Maintenant quand ils viennent ici, ils trouvent qu'il y a la vie, il y a même l'argent. Et ils sont très contents, ils disent, mais pourquoi pendant tout ce temps vous ne nous avez pas invités? Maintenant que nous sommes là, nous pensons que nous allons créer des contacts pour que nous commencions les affaires avec les Congos. Ce qui est bien, c'est ce que nous cherchons d'ailleurs.
Donc vous avez l'intention de pouvoir organiser des foires rotatives?
Ça a déjà commencé. La première fois c'était à Bujumbura, maintenant nous sommes ici, ensuite nous irons en Tanzanie et ailleurs. C'est rotatif.
Merci beaucoup et bonne chance.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.